Merci d'écouter Radio Alpha et plus précisément l'Alpha 10-13. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Vacher. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Tu es pigiste pour le journal Libération, Arthur, bibliothécaire et libraire, et nous allons aujourd'hui évoquer ton podcast autobiographique, très certainement, mais tu vas nous le raconter, intime en tout cas, intitulé Les Portugais. Dans ce podcast documentaire créé en partenariat avec la revue Regard, tu racontes à la première personne l'histoire d'une amitié qui a duré un peu plus d'un an entre trois garçons à la fois gays et portugais, Adrien, Joseph et toi, deux garçons que tu rencontres dans un grand magasin parisien où tu travailles, avec lesquels tu partages une langue, non pas seulement la portugaise, mais aussi celle de l'humour, des codes et de la culture queer. Un podcast en 5 épisodes dont, si je ne m'abuse, 2 sont pour le moment disponibles. Ma première question pour commencer, Arthur, sera la suivante. Qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à proposer ce podcast ?
Alors, ça a été majoritairement de vivre des moments partagés à plusieurs entre amis, et c'est ce qui m'a donné envie de les archiver et d'en raconter l'histoire. Mmh. On vivait des moments très très doux, très très forts. On faisait des soirées pyjama, on dormait ensemble sans faire l'amour. On se racontait des anecdotes de clients de ce grand magasin dans lequel on travaillait. Et ça nous a donné envie de raconter notre histoire et qu'elle dépasse plus que notre cercle d'amitié, mais qu'elle soit disponible pour d'autres.
Et alors, très rapidement, là, tu as évoqué le terme amitié, et justement, ne casses-tu pas un certain cliché avec ce podcast ? Je veux dire par là que l'homosexualité, le plus souvent, quand on l'aborde, c'est du point de vue de la sexualité, et parfois de l'amour, mais enfin jamais de l'amitié. Comment as-tu fait pour la raconter, pour ne pas glisser dans la séduction, en fait ? Comment fait-on pour préserver l'amitié des serres de la sexualité ?
Alors, c'est assez beau parce que l'homosexualité, c'est une sexualité, mais c'est aussi une culture qui brasse énormément de choses. Et donc, je sais que l'homosexualité peut amener à l'amitié. Par exemple, il y a des cultures BDSM qui ont des codes à proprement parler, qui sont des sortes de mini-sociétés dans lesquelles on peut devenir amis. Mais moi, en tout cas, je n'appartenais pas à ces codes-là. Et j'avais une difficulté pendant très longtemps à avoir des amis gays parce que je les séduisais et si je ne les séduisais pas, je les ghostais et je n'arrivais pas à être ami avec eux. Donc je sais que pour beaucoup, c'est très simple d'avoir des amis gays, mais moi c'était pas le cas. Et donc ça a été ce que je raconte dans le podcast, ça a été une nouveauté pour moi de dire stop, on arrête, on fait un pacte, on dit qu'on ne couchera pas ensemble, qu'on arrête de se séduire. Et on forme une amitié, on essaye de proposer des moments doux, des moments d'aide, d'entraide. Et c'est ça qui est beau.
Et alors comment on raconte des expériences aussi intimes ? Comment poser des mots sur des moments aussi forts, sur des conversations de chambre, sur des fous rires ?
Alors d'abord, faut les vivre. C'est parce que j'ai vécu des moments forts que j'ai eu envie de les raconter. Donc l'anecdote, voilà, c'était par exemple, on a fait une soirée pyjama et on a dormi ensemble sans qu'il y ait une quelconque séduction. On s'est brossé les dents ensemble, on s'est démaquillé parce qu'on venait de se maquiller quelques minutes plus tôt. Et ça a été un moment tellement beau que j'ai eu envie de l'écrire. Donc j'ai d'abord écrit sur papier, puis après j'ai fait le choix de le prononcer dans un micro. Aussi, il y avait cette volonté très rapidement d'enregistrer. J'avais besoin, donc j'ai acheté un petit micro qui enregistrait tout, les bruits de bouche, les bruits de couvert, nos discussions. Et je le posais là et mes amis m'ont laissé le poser pour enregistrer tout ça. Et en fait, je rentrais chez moi et j'écoutais nos conversations et ça me faisait un bien fou. Et ce passage-là m'a donné envie d'aller plus loin et de raconter notre histoire.
Est-ce que tu vois dans cette expérience personnelle, Arthur, quelque chose qui serait de l'ordre d'une expérience universelle, en fait ?
Alors, je sais pas si ça peut toucher tout le monde, mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que j'ai reçu des retours. Par exemple, j'ai une personne hétérosexuelle qui m'a dit, voilà, j'ai été bouleversée par votre travail. Mm-hmm. Ça m'a touché, je me suis identifié. Et je sais que ça peut questionner sur l'amitié en général. Ça touche beaucoup plus large que seulement la petite communauté portugaise et gay. Voilà.
Et ce qui est intéressant également dans ton podcast, c'est que la mémoire est mise à mal, ou plutôt elle est extrêmement incarnée par toi qui raconte. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous, Adrien, Joseph et toi, les mêmes souvenirs des mêmes événements. Et cela entraîne par exemple même des modifications physiques. Dans le premier épisode, tu évoques les yeux marrons d'Adrien, alors qu'en fait, il n'a pas du tout les yeux marrons.
Exactement. En fait, c'est une. Enfin, je me suis aperçu de ça en faisant écouter justement mon travail à mes amis, et j'ai réalisé que, en fait, on n'avait pas les mêmes souvenirs ou pas le même point de vue. Mais je trouvais ça fort et beau de faire entendre ma vérité et de dire que c'était la mienne seulement et que elle pouvait être faussée par mes souvenirs, par ma manière de voir les choses. Mais je voulais faire entendre mon point de vue le plus intime possible, avec ses contradictions et ses doutes.
Alors, tu évoquais le mot culture il y a quelques minutes. Pour celles et ceux qui nous écoutent, comment définir la culture queer ? Est-ce que c'est par exemple trouver la Vierge Marie aussi fashion que Lady Gaga ?
Ça peut partir de ça, en effet, Didier. La culture queer, c'est un terme très généraliste, donc qui n'a pas forcément une définition précise, mais ce serait pour moi simplement les codes, les langages qui font partie de cette à côté de l'hétérosexualité comme modèle, comme institution publique. Monique Wittig parlait d'un régime politique en disant que l'hétérosexualité, c'était un régime qui était autoritaire, qui s'appliquait partout. Et la culture queer, c'est une culture dissidente qui propose d'autres formes de relations, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations de sexe. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la culture BDSM. En fait, les plans cul peuvent mener à des amitiés, où des amis peuvent être sex friends, où il peut y avoir des amis en relation libre. Voilà, donc il y a plein de possibilités que le monde queer et le monde gay peuvent offrir à plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans ce régime politique de l'hétérosexualité.
Alors simplement pour détailler BDSM, on parle bien de bondage, domination, sadisme et masochisme, hein, qui est un type de pratique sexuelle.
Exactement.
Est-ce que ce récit, justement ton podcast, a pour toi quelque chose de dissident, de militant ? Peut-être pas au sens revendicatif, mais en tout cas au sens de visibilité, de mise en lumière.
Bien sûr, et c'est militant, je le revendique comme un travail militant, j'ai pas peur de le dire. C'est important pour moi que des voix existent, et le fait de raconter mon histoire à la première personne, c'est venu d'un manque de visibilité, d'un manque de représentation entre d'amis homosexuels qui passent des moments tendres, qui s'épaulent, qui s'entraident dans leur vie de tous les jours. Et c'est ce que j'ai voulu raconter. Pourquoi ? Parce que j'ai traversé un moment difficile dans ma vie, et à ce moment-là, l'amitié avec ces deux garçons, Adrien et Joseph, ça a été quelque chose d'un pilier, quelque chose qui me tenait, qui me ramenait chaque jour à une activité. Je me disais, je vais les voir, je vais partager un café avec eux, je vais passer du temps avec eux, et ça, c'était quelque chose de très fort que je pense n'est pas assez représenté. En tout cas, dans la culture queer.
Donc, j'imagine que ta rencontre, la rencontre avec Adrien et Joseph, a complètement modifié la perception que tu avais de l'amitié.
Exactement. L'amitié, c'était pour moi quelque chose de très fragile, et c'est devenu quelque chose d'encore plus fragile. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça tellement précieux que je veux protéger cette amitié en la racontant et en faisant une histoire.
Alors ce podcast est raconté à la première personne. Cette première personne qui nous raconte tous ces moments tendres, c'est toi, un jeune luso-descendant. Alors comment fait-on son coming out, Arthur, dans la communauté portugaise ? Et comment le tien s'est passé d'ailleurs, si tu veux bien nous le raconter ?
Bien sûr, oui. Donc c'est un coming out, tout d'abord dire qu'on est homo à un cercle d'entourage proche qui fait partie plutôt de l'hétérosexualité, donc qui a du mal à imaginer que l'homosexualité puisse exister. Avec ma mère, ça s'est plutôt bien passé, mes parents aussi, mais ma mère qui est luso. Mais ma grand-mère, ça a été compliqué. Quand je lui ai annoncé, elle a eu un recul, elle a eu nécessaire, elle a eu besoin de prendre ses distances avec moi pendant plusieurs mois. Et ça a été douloureux. C'est ce que je raconte dans le podcast. Ça a été tellement douloureux que j'ai eu l'impression de perdre non seulement ma grand-mère, mais une partie de la culture portugaise, puisqu'elle venait, elle venait de cette personne-là. Et les Portugaises, mon amitié, ce trio d'amis avec Adrien et Joseph, ça a été une manière pour moi de me reconnecter à la culture portugaise, de regarder des films portugais, de parler en portugais, de s'échanger des doux mots, des comptines d'enfance. Et ça m'a permis de me dire, en fait, la culture portugaise fait partie de moi, que ma grand-mère le veuille ou non, et j'ai le droit de l'associer à la culture queer, que les deux peuvent exister, coexister, et que ce sont des cultures donc, que je n'ai pas eu le choix de prendre, puisqu'elles font partie de mon identité, et donc j'essaye de me les approprier.
Oui, quelque part, tu as retrouvé ta portugalité par ton homosexualité.
Exactement.
Et comment cumule-t-on être portugais, être luso-descendant et être queer? Est-ce que c'est un accord paisible?
Alors, est-ce que c'est paisible? Je sais pas. En tout cas, c'est agréable de pouvoir, comme tu le disais, voilà, la Vierge Marie, ça a été une figure tellement présente qu'elle est une icône pour moi, autant que Lady Gaga. Voilà, j'essaye de mêler ces cultures. Par exemple, à Noël, le Noël dernier, avec Adrien, on était très fiers de se maquiller et de porter des tabliers portugais. Et de danser comme des cuisines, comme des femmes au foyer, dans la cuisine. Et on était très heureux de mêler ça, de manger des pastéis de nata tout en écoutant Lady Gaga.
Tu viens de dire à l'instant que tu oscilles entre ces mondes, et puis le concept aussi de fluidité est un concept important dans la culture queer. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, appartenir à une communauté?
Oui, c'est très important lorsque, en plus, dans cette culture portugaise où j'ai l'impression d'être en tout cas abandonné par ma grand-mère à un certain moment, se sentir appartenir à un groupe, à un trio d'amis, c'est quelque chose de très fort, de puissant. Ça nous fait vibrer de l'intérieur, ça nous donne envie de se lever le matin. On est heureux de recevoir des messages d'amour, d'affection de ses amis. Et donc c'est très fort d'appartenir, en effet. Et appartenir plus largement à la culture queer, c'est pouvoir se reconnaître dans lorsque, par exemple, dans la rue, on voit deux amoureux se tenir la main. C'est puissant, c'est une représentation, on a l'impression de faire partie de la même famille.
Alors, à t'écouter, dans le trio Adrien, Joseph et toi, on a l'impression que tout se passe toujours très bien et que c'est une amitié fleur bleue, disons. Mais enfin, parfois, le trio s'est dégradé. Faut être honnête.
Exactement,
Il y a eu
exactement.
des difficultés.
Il y a eu des difficultés qu'on a traversées, d'autres qu'on a eu du mal à traverser, et avec le temps, ce trio s'est étiolé. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter cette histoire, pour lui donner, comment dire, pas lui donner un sens, mais la faire exister et l'archiver, parce que cette amitié aujourd'hui s'est modifiée. J'ai commencé à voir Adrien seul, puis Joseph seul. Petit à petit, on a arrêté de se voir à trois. Et maintenant, avec Adrien, on se parle très régulièrement, mais avec Joseph un peu moins. Et c'est pour dire tout ça, c'est pour dire que l'amitié, c'est quelque chose de très précieux qu'il faut préserver, qui peut avoir une fin et donc qu'il faut protéger.
Et alors, à quoi est voué aujourd'hui les Portugaises? Aujourd'hui, c'est un podcast. C'est une histoire qui est devenue un podcast. Est-ce que tu lui vois, par exemple, est-ce que tu lui donnerais des ambitions plus importantes encore, comme une association, par exemple?
Alors pour l'instant, c'est mon rôle, ce que je me donne à faire, c'est ce que je m'autorise à faire, c'est surtout de partager autour de moi ce podcast pour qu'il existe en tant que lui-même. Et on terminera le podcast le 18 mars à la Gaîté Lyrique. On organisera une écoute collective que je lirai et je lirai à voix haute le dernier épisode, puisque c'est un texte que je lis à la première personne, une sorte de monologue. Et donc voilà, mon rôle, c'est surtout de faire vivre ce podcast et qu'il touche d'abord un groupe niche de Portugais et gays qui ont besoin d'entendre ces représentations, et après qu'il puisse toucher plus largement des personnes, membres de la culture queer, des gens en quête d'amitié et plus largement encore toute personne qui voudrait se retrouver dans ces paroles.
Concrètement, qu'est-ce que ce podcast a changé en toi, Arthur?
Alors, je ne sais pas s'il a changé quelque chose en moi, mais il m'a fait plaisir à monter, par exemple, quand je suis à mon bureau en train de monter les épisodes, je revois notre amitié et je me dis quelle chance j'ai eue de vivre ça à trois.
Oui, puisque ce podcast, on peut aussi le décrire comme un véritable hymne à l'amitié.
C'est un hymne à l'amitié, c'est une histoire, Un hymne, c'est aussi une chanson, et dans le jingle de du podcast, on entend la mélodie que me chantait ma grand-mère lorsque j'étais enfant avant de dormir. Une petite mélodie, une petite comptine. Et c'est ces paroles-là, ces comptines-là que j'ai voulu transmettre aussi, cet hymne, ces voix qu'on a essayé de faire vivre à travers notre amitié.
Et donc, pour terminer, Arthur, où peut-on l'écouter, ce podcast, et quel est le nom des réseaux sociaux pour suivre cette actualité?
Bien sûr, donc le podcast, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, mais aussi sur le site de la revue de gauche Regard, qui diffuse le podcast. Et après, vous pourrez nous rejoindre le 18 mars à la Gaîté Lyrique pour écouter en live le dernier épisode des Portugais.
Et faut-il réserver sa place?
Ce sera gratuit et l'entrée est libre.
Et ce sera donc le 18 mars à la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup Arthur d'avoir accepté l'invitation de cet Alpha 10-13 pour répondre à mes questions.
Ça a été un honneur, merci beaucoup de m'avoir invité.
Ton podcast, je le rappelle donc, s'appelle Les Portugais, Portugais. Et je le confesse ici pour nos auditeurs et auditrices, j'étais particulièrement heureux de te recevoir Arthur. Nous qui avons partagé les bancs de la prépa ensemble, on a traversé dans la joie et parfois dans la douleur l'hypocagne et la cagne des années lumineuses d'enseignement que j'ai eu la chance de partager avec toi. Merci Arthur.
Merci beaucoup Didier, à bientôt.